Cours de philosophie première par le Père Philippe à Saint-Joseph le 23 février 1987.
Si commode que ça. Et en même temps, je crois. enfant, c'est naïf, quoi. C'est du naïf. Et t'es du méta-naïf. Mais c'est du naïf. Parce qu'une fois qu'on a saisi le point exact, tout découle de ça. Il y a une espèce de coupure entre l'empirique et le transcendantal. Alors, analogue. Et le transcendantal, c'est ce qui rend raison de la connaissance de l'empirique. Ce qui rend raison. Ce qui permet de formaliser l'empirique. Dans toute connaissance, il y a une formalisation. Puisque toute connaissance implique une abstraction. Alors, comme toute connaissance implique une abstraction, implique une formalisation. Comme toutes les sciences modernes sont formalisées par les mathématiques. C'est les mathématiques qui formalisent la science, toutes les sciences modernes. De même, le transcendantal subjectif, ce primat du subjectif transcendantal, c'est l'a priori. C'est l'a priori. Formalise toute ma connaissance empirique. C'est là où il faut regarder que devient le jugement d'existence chez Kant. C'est ça qui est très intéressant à voir. Que devient le jugement d'existence? Le jugement d'existence est un peu conçu à la manière d'Occam. Grâce à la sensation, je rejoins le réel. Du moins, je rejoins l'apparence du réel. Parce que le cette coupe. l'aspect premier, et c'est ça qui me semble important, c'est que dans une attitude réflexive, si je commence ma connaissance par une attitude réflexive, qu'est-ce qui domine? C'est la conscience que j'ai de penser. Cette pensée, je la regarde sous des aspects différents. Je la regarde en tant qu'elle est une activité. Je la regarde dans sa détermination. Je la regarde dans la formalisation de l'idée. Trois aspects successifs. Occam, Descartes, Kant. Kant, c'est le super critique. Le super critique, c'est regarder la possibilité du cogito, la possibilité de l'intelligere. Qu'est-ce qui rend possible que le cogito soit premier? Qu'est-ce qui rend possible que l'intelligere soit premier? Puisque Occam affirme que la première chose, qu'est-ce qui permet que l'intelligere existe, que le cogito existe? Mais qu'est-ce qui permet ça? Qu'est-ce qui rend possible cela? La forme a priori. C'est pour ça que c'est un état critique. Ce qui rend possible, c'est ça, je crois, qui est tout l'esprit propre de Kant. À ce point de vue-là, on comprend très bien, on veut saisir ce qui rend raison de ce primat du cogito, de ce primat de l'intelligere. Ce qui rend raison, comment la chose est possible. Et c'est toujours ce que Kant se pose. Comment la chose est possible? Ce n'est pas une constatation. C'est beaucoup plus de se poser comment la chose est possible. C'est pour ça qu'on est là, en face de la conscience transcendantale. Formalise tout le reste. Donc conscience, je continue, cette conscience de soi-même dans la synthèse transcendantale du divers des représentations en général est simplement la conscience d'un pouvoir de synthèse de ces représentations a priori. Et je crois qu'il faut souligner d'un pouvoir de synthèse, ce qui rend raison. Il y a un pouvoir de synthèse. Et alors c'est très curieux, là. La personne reviendrait presque à ce pouvoir de synthèse. De ses représentations a priori, nous sommes ici à un niveau purement critique. Car les modes de la conscience de soi dans la pensée ne sont pas encore en soi des concepts intellectuels. Ne sont pas encore en soi des concepts intellectuels d'objets, mais de simples fonctions logiques qui ne font connaître, la pensée absolument aucun objet, et qui par suite ne me font pas connaître non plus comme objet. C'est le pouvoir. C'est le pouvoir que j'ai de connaître. Mais ce n'est pas ce que je connais. En dehors de cette signification logique du moi, nous n'avons aucune connaissance du sujet en soi, qui est à la base du moi, comme de toutes les pensées, en qualité de substrat. C'est encore l'affirmation de Kant, ça. Toujours dans la critique de la raison pure. Donc, en dehors de cette signification logique du moi, nous n'avons aucune connaissance du sujet en soi, qui est à la base du moi, comme de toutes les pensées en qualité de substrat. Si donc le concept de la personnalité demeure chez Kant, c'est en tant simplement transcendantale, c'est-à-dire en tant qu'il est l'unité du sujet, ce par quoi j'ai le pouvoir d'unifier toutes mes représentations, toutes ces représentations étant le jeu.
Comme
une fonction logique. Il permet de rassembler. La formalisation de l'œcuménisme de l'intelligence. L'intelligence ramène toujours tout à l'unité. Ça, c'est très vrai. Et surtout quand j'ai comme fond de la pensée, comme modèle, le modèle scientifique. Les lois cherchent toujours à être plus générales. C'est ça qui est important, c'est de tomber vers le général, le plus général, le premier général. Général dans le sens logique. C'est-à-dire ce qui rassemble. C'est vrai que la fonction logique du genre fait ça admirablement. On ramène la diversité à l'unité. Et ramener la diversité à l'unité, c'est l'intelligence qui fait ça tout le temps. L'intelligence a cette espèce de manie de vouloir toujours rassembler dans l'unité. Alors, si je regarde ce phénomène, et c'est vrai que c'est un phénomène de l'intelligence. Et j'essaie de comprendre la raison de cela. Comment l'intelligence fait-elle cela? Je quitte tout l'aspect objectif pour ne regarder que l'aspect fonctionnel. Et j'essaie de saisir la raison sine qua non de ce fonctionnel. Et alors à ce moment-là, j'ai le pouvoir de synthèse. Et ce pouvoir de synthèse, c'est justement ce fait que je constate que l'intelligence veut toujours tout ramener à l'unité. Donc, c'est logique et critique, vous voyez, c'est par la critique que je saisis ce pouvoir fonctionnel de l'intelligence qui ramène tout à l'unité. Et je crois qu'alors, on peut comprendre concept de la personnalité. Au niveau de la raison pratique, le nom de personne est donné aux êtres raisonnables, au sens où Kant emploie ce terme, c'est-à-dire non pas seulement doué de raison, mais chez qui la raison est capable d'être pratique par elle-même. Ainsi entendu, la personne est une fin en soi et ne peut en aucun cas être traitée comme un moyen. La personnalité qui fait de l'homme une fin en soi consiste en la liberté, l'indépendance à l'égard du mécanisme de la nature entière, considérée cependant en même temps comme un pouvoir d'un être qui est soumis à des lois spéciales, c'est-à-dire aux lois pures pratiques, données par sa propre raison, de sorte que la personne, comme appartenant au monde sensible, est soumise à sa propre personnalité en tant qu'elle appartient en même temps au monde intelligible. Personnalité, c'est l'abstrait de la personne. La personne sensible rassemble toutes les représentations. Et ce qui permet ce rassemblement de toutes les représentations, c'est la personnalité. Et cette personnalité, c'est donc la fonction la plus fondamentale de la raison. J'allais presque dire que c'est la raison à l'état pur, la personnalité. C'est ce qui caractérise la raison. Mais non pas du tout dans son contenu ontologique, mais dans son pouvoir de synthèse. C'est deux choses tout à fait différentes. C'est évidemment très curieux, petit exercice d'intelligence. C'est difficile d'entrer dedans. C'est très simple, parce que c'est la coupure complète du monde, de l'être, du noumène, de ce qui est, et Tu t'amènes de l'intelligible. Tu t'amènes de l'universel en réalité. Kant est... Il est saisi, je crois, très très fort. Je crois que ça a été ça, parce que... Vous savez ce que dit Bergson? Quand Bergson dit « on ne peut saisir un philosophe que quand on a saisi son intuition fondamentale », je crois que c'est très juste. L'intuition fondamentale, en prenant intuition au sens très, très général, quelle est l'intuition fondamentale d'une philosophie comme Aristote? C'est le jugement d'existence. Je l'explicite, hein. Aristote ne le dit pas. Mais j'ai le droit, à la manière de Bergson, de dire « je cherche ce qui fait l'unité de toute la philosophie d'Aristote ». Qu'est-ce qui fait l'unité de toute la philosophie d'Aristote dans la diversité? Qu'est-ce qui fait l'unité de toute la philosophie dont saint Thomas se sert dans sa théologie? Jugement d'existence. Qu'est-ce qui fait l'unité de toute la réflexion critique de Kant, puisque c'est une réflexion critique de Kant, qu'est-ce qui fait cette unité? Je crois que c'est cette séparation entre le domaine du nous-mêmes, le domaine ontologique, et le domaine de l'intelligible. C'est la coupure entre les deux. Alors, si vous comprenez que Kant a été au point de départ disciple de Wolff, il ne faut pas l'oublier. C'est comme il ne faut jamais oublier que Husserl, au point de départ, il est matheux. Disciple du grand mathématicien de l'époque. Et qu'il a fait une thèse mathématique. N'oublions pas que Kant, et je dis ça d'autant plus important, que Kant n'a jamais rétracté son point de départ. Donc s'il ne l'a jamais rétracté, ça prouve qu'il n'en est jamais sorti. Parce qu'on ne peut rétracter que quand on en sort. jamais d'une humaine. Et je crois que c'est bien ça, ce qui est l'intuition de Kant. La grande critique que fait Kant aux diverses voies d'accès qui conduisent à l'être premier, c'est de montrer que toutes ces voies d'accès impliquent l'ontologisme. Kant, c'est celui qui, au point de départ de sa vie philosophique, était sous l'influence de Wolff dans un ontologisme le plus parfait qui soit. Réaction brutale, on prend l'opposé. Et donc on brise l'ontologisme. Comment briser l'ontologisme? C'est mettre à l'intérieur de l'ontologisme une séparation brutale, absolue, entre le noumène que j'ignore. Je ne sais plus. Je ne sais pas ce que c'est que l'être. L'être existant, hein. Pas l'être pensé. L'être pensé, je sais très bien ce que c'est. Quand on parlera de l'être pensé, quand on parlera de l'idée de Dieu. Mais tout ça, c'est de l'ordre de l'idée, on dirait, de la cérébralisation. Et puis, le nous-mêmes, alors, dans cette perspective, que devient le concept de personne, vous voyez ? Et c'est le concept de personne, la ratio, que saint Thomas parlerait, personalitatis, devient le concept de personne. On ne regarde plus le fondement réel, on ne regarde plus que le point de vue de l'intelligibilité. Je crois que c'est ça qui nous aide à saisir ce que représente chez Kant cette recherche extraordinairement systématique. Il y a peu de philosophes qui ont été aussi systématiques que Kant. Mettez le petit doigt dedans, vous allez jusqu'au bout. Et qui alors fait dire ces choses-là pour saisir ce qu'est la personne. Cette idée de la personnalité qui met devant nos yeux la sublimité de notre nature, c'est Kant qui dit ça. C'est très bien l'idée de personnalité, le concept de personnalité. Ça revient au même. Hein. Cette idée de la personnalité qui met devant nos yeux la sublimité de notre nature, en nous faisant remarquer en même temps le défaut d'accord de notre conduite avec elle-même, est naturel. Même à la raison humaine la plus commune. C'est quelque chose de naturel, cette idée de personnalité. C'est Delbos qui dit ceci, la personnalité est tellement importante dans le système kantien qu'elle lui imprime les caractères par lesquels il se définit. Dans sa philosophie pratique de Kant. Mais Max Schiller fait observer qu'il est permis de se demander si une éthique formaliste de la raison et de la loi n'aboutit pas à priver la personne de sa dignité en raison de l'obligation où elle se trouve de soumettre cette personne à un nomos, donc une loi impersonnelle, à qui elle serait tenue d'abord d'obéir pour réaliser totalement son devenir personnel. La sublimité de la personne est telle que vous videz la personne de tout son contenu objectif pour n'arriver qu'à une formalisation. Donc un nomos, la loi suprême, ce pouvoir suprême de synthèse. Donc vous videz la espèce de recherche. Je crois que c'est important de comprendre ce moment ultime de la formalisation de la personne. Ce par quoi je suis personne. Ce qui rend raison de mon pouvoir de synthèse, d'unir toutes mes représentations. Donc il y a là quelque chose auquel il faut au moins, même si on a de la peine de le saisir, s'arrêter pour comprendre ce souci qu'il a de montrer que la personne, c'est dans l'ordre de l'intelligibilité. C'est dans l'ordre de l'intelligibilité ce qui rendra raison de tout le système d'intelligibilité. Voyons. parce qu'il est le petit-fils d'Ockham. Sans très bien le savoir. Or, Ockham est le premier qui sépare l'appréhension du jugement. Puisque l'appréhension est première au sens absolu. Et que le jugement n'apparaît que comme une addition. C'est l'appréhension qui absorbe le jugement. Chez Ockham, puisque l'appréhension, je veux dire, le jugement dépend entièrement de l'appréhension. Donc, le jugement est absorbé par l'appréhension. Et c'est ça l'ontologisme. L'ontologisme, c'est le jugement absorbé par l'appréhension. Alors, à ce moment-là, le domaine de l'intelligibilité absorbe l'être. Je crois que c'est ça l'ontologisme. C'est l'intelligibilité qui est première et qui absorbe l'être. L'intelligibilité devient ce qui est métaphysique. Absorber le jugement. C'est en ce sens-là qu'il est anti-ontologiste. Et plutôt que de distinguer appréhension et jugement, ce que nous ferions, il sépare. Et en faisant ça, il retombe dans un autre ontologisme. Forcément.